Chapitre 17. Pour sortir de la cour de la gendarmerie de Besse, je galère. Pas question de leur laisser l'une de mes portières. Une jeune fliquette adorable, elle ne doit pas avoir plus de 20 ans, me guide, plus efficace qu'un radar de recul. Plus souriante surtout.
« Tout droit et ça passe crème, madame !»
Les gendarmes ont été adorables. J'adresse un petit signe de la main à la gamine en uniforme et je rejoins la route de Murol. Je me sens plus légère, tellement plus légère. Les gendarmes me l'ont répété au moins 3 fois. Je n'ai pas à m'en faire.
« Vous n'y êtes pour rien, docteur. Martin Saint-Foin n'avait aucun problème de cœur. Vous n'avez commis aucune erreur. On ne peut pas vous en dire davantage pour l'instant, mais on tenait juste à vous rassurer.
« Merci. Même si je n'ai rien compris. » Si Martin Saint-Foin n'avait aucun problème de cœur, alors que s'est-il passé? Les gendarmes étaient rassurants, souriants, mais bizarres. Ils tournaient comme des mouches par temps d'orage, comme si Martin Saint-Foin avait été assassiné. Je m'efforce de ne plus y penser. Cette histoire ne me regarde plus maintenant que j'ai été disculpée. Je fixe au loin le puits de Dôme, son étrange sommet en forme de dos d'éléphant et son antenne plantée dans le crâne du volcan. J'essaie de capter une station de radio, n'importe quelle chanson qui me permette de me vider la tête et de me concentrer. Je n'ai toujours pas retrouvé cette foutue clé USB. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un ait pu me la voler. Est-ce moi qui l'ai rangée quelque part, puis oubliée? Je parviens déjà à l'entrée de Murol quand RFM Auvergne cesse de grésiller. Jean-Jacques Goldman grave l'écorce, jusqu'à saigner. Ma première consultation n'est que dans 1 heure. Je les avais toutes décalées, ignorant combien de temps les gendarmes allaient me garder. J'ai 1 heure à tuer. J'hésite entre m'arrêter au cabinet ou remonter jusqu'au moulin, le temps de boire un café, de faire un câlin à Gabi. Il doit être encore au lit. J'hésite trop longtemps. J'ai dépassé Murol et ma mytho s'engage déjà avec enthousiasme dans les virages qui longent la Couze Chambon. 5 petits kilomètres de montée. Peut-être que Gabi a fait couler du café. La guitare de Goldman continue toujours de saigner quand j'aperçois le panneau Froidefond. Le pont au-dessus du torrent devant moi, la fontaine aux eaux rouges sur ma droite, la Souille en contrebas. Rien ne t'efface, je pense à toi. La porte de la ferme est ouverte. Sans réfléchir, sans chercher à comprendre ce qui me passe par la tête, je m'arrête. Amandine Fontaine m'attend sur le pas de la porte. Impossible de rater ma mytho garée dans sa cour. Volontairement, je ne l'ai pas jouée discrète. Plutôt médecin appelé en urgence et qui se gare en faisant crisser les graviers.
« Y a un problème, docteur ?»
me demande Amandine. Joue-t-elle la comédie ou est-elle sincèrement inquiète?
« Non, aucun, rassurez-vous. Je me permets juste une petite visite de routine, entre voisines. Je passe devant chez vous tous les jours. » Je me suis arrêtée pour prendre des nouvelles.
Amandine se méfie. Je devine que si je lui demande la permission, elle ne me laissera pas entrer. Tant pis. Ma sacoche de médecin me confère une certaine autorité. Je ne lui donne pas le choix et j'avance d'un pas déterminé. Contre toute attente, elle s'efface devant moi. Je demande d'un air détaché.
Tom n'est pas là ?
Non, il est parti à la piscine en vélo.
J'improvise. Tout en laissant mon regard traîner sur la pièce principale.
Ça tombe bien.
Mes yeux se posent sur les piles de linge non repassées, les assiettes et les couverts non débarrassés. Les rayons du soleil, par la fenêtre ouverte, cuisent les pots de confiture non rebouchés. Les poils de chat s'accumulent sur les torchons non étendus. Des livres, des journaux, des jouets s'entassent dans l'âtre froid de la cheminée qui n'a pas dû être allumée depuis une éternité. Je finis par ajouter.
C'est vous que je voulais voir, Amandine.
Moi ? Pourquoi ?
Parce que je suis médecin. Je vous ai observé au cimetière. Vous ne parveniez pas à vous tenir debout.
Amandine cesse brusquement de s'appuyer contre le mur et se redresse, prise en faute tel un garde du palais de Buckingham qui se serait assoupi.
La chaleur, l'émotion. Maintenant ça va.
Si vous le dites.
Je laisse encore traîner le regard sur le sac d'école de Tom, balancé dans un coin de la pièce, sur le papier peint déchiré au mur, comme si Amandine avait décidé un jour de le changer avant d'y renoncer. Sur les caisses alignées sur le sol, emplies de terre et de plantations difficiles à identifier.
« Je me soigne moi-même, docteur. Je croyais que mon message avait été clair. »
Et pour qu'il soit encore plus clair, elle fixe avec insistance les herbes dans les caisses. Elle mélange vraisemblablement médecine par les plantes et homéopathie. J'en profite pour poursuivre mon inspection. Sur une chaise, des guides des fleurs et champignons de montagne sont empilés en vrac. Des posters sont accrochés au mur. Une plage où « Save the Planet » a été gravée dans le sable, un arbre en forme de cœur, une terre en forme de bombe. Tic-tac, tic-tac. Des citations et des poèmes ont été recopiés sur des feuilles blanches et punaisées un peu partout. « Élévation » de Baudelaire, « Temps de forêt » de Prévert, « L'heure du berger » de Verlaine, « Choriachori » de... Choriachori ? Je sursaute sous le coup de la surprise. Choriachori est le plus célèbre poème basque. Esteban le connaissait par cœur, comme chaque élève de son école. Il savait même jouer l'air à la guitare et s'amusait à improviser de nouveaux arrangements. Qu'est-ce que ce texte fait ici, accroché au mur de cette ferme en Auvergne ? Amandine et Tom l'auraient rapporté de Saint-Jean-de-Luz ? Pourquoi justement celui-ci ? Et en basque ? Ni Tom ni Amandine ne doivent en comprendre le moindre mot. La voix d'Amandine me fracasse le dos.
Vous cherchez quoi, docteur ? Je vais être franche, il y a un truc qui me gêne chez vous. Je sais pas quoi. La façon dont vous regardez mon gamin, peut-être. Ou dont vous rôdez un peu trop autour de chez moi. C'est quoi votre problème ? Vous faites une enquête sociale, c'est ça ? Vous trouvez que c'est pas assez propre chez moi ? Que j'élève mal mon môme ? Vous allez me signaler aux services départementaux ?
Je bafouille encore et bats prudemment en retraite.
Mais non, voyons, pas du tout. Vous avez des toilettes ?
Amandine me dévisage. Elle ne croit pas une seconde à mon envie pressante. Elle sait que c'est une façon de gagner du temps, de continuer d'espionner. Et pourtant, comment pourrait-elle refuser ?
Au fond du jardin, il y a un trou. Je plaisante. Le couloir face à vous, première porte à gauche.
Les toilettes sentent le santal, des bâtons qu'Amandine fait brûler. Partout sur les murs, des dessins de Tom sont scotchés. Tous ceux depuis qu'il est né. J'ai beau chercher, je n'y découvre rien de particulier, rien que de banal soleil, ciel, champ de fleurs, volcan vert, tout juste si je repère sur quelques dessins deux grandes silhouettes et une petite. Tom a donc un papa. Bien entendu, depuis le début, j'ai formulé cette hypothèse dans ma tête. Tom et Esteban pourraient avoir le même père. Mais je dois me rendre à l'évidence. Aucun lien de parenté ne pourrait suffire à produire une telle ressemblance. Je m'approche davantage. Je ne vais rien apprendre sur l'identité du père de Tom en détaillant ce bonhomme qui se limite à un bâton et une grosse tête. Le dessin est daté. 19 mai 2013. Tom avait 3 ans. Le reste du mur est consacré à des tableaux peints pour la fête des mères. Toutes les années, presque depuis que Tom est né. 2013, 2014, 2015. Je m'arrête sur celui de 2016. Il représente 2 chats, assis autour d'un bouquet de fleurs et de 3 mots griffonnés. 3 mots qui se plantent dans mon cœur. Maïté, Saïtout, Ama. 3 mots basques qu'Esteban a si souvent prononcés. Je t'aime, maman. Hypnotisée, je me penche sur les années suivantes, 2017, 2018, 2019, les mêmes mots basques qui sont tracés. Maïté, Saïtout, Ama. Tom ne les a pas appris à Saint-Jean-de-Luz il y a 6 mois. Ces mots d'amour ont été peints dès que Tom a eu 6 ans, dès qu'il a su écrire. Tom a pourtant toujours habité en Auvergne, ici, à La Souille. Il est né à la clinique des Sorbiers à Issoire. C'était inscrit sur son dossier médical. Comment Tom pourrait-il parler basque ? L'euskara, la langue basque, est l'une des langues les plus complexes au monde, l'une des plus confinées. Elle n'est enseignée que dans les Euskadis. Pratiquement personne ne la parle en dehors de ce pays. Je sors des toilettes. Cette fois, c'est moi qui ai du mal à me tenir debout.
« Ça va, docteur ?»
La voix d'Amandine est glacée. Elle a pris appui sur le conduit de la cheminée. « Non, ça ne va pas. Je sais que je n'aurai pas d'autre occasion pour revenir à La Souille. Si je dois connaître la vérité, c'est ici et maintenant. Ça va, c'est le fait que votre fils écrive en basque qui m'a surprise. » Amandine ne bronche pas.
« Et alors ?»«
J'y ai vécu 10 ans. Tom parle basque ?»«
Je crois, docteur, que ça ne vous regarde pas. »
J'insiste. Je n'ai plus rien à perdre.
Vous êtes basque ?
Amandine me sourit tout en posant sa main sur la cheminée.
On est parti en vacances une semaine à Saint-Jean-de-Luz l'été dernier.
Et votre fils a appris à parler basque en une semaine ?
Amandine me défie du regard. Cette fois, la guerre est déclarée.
Il est peut-être surdoué ? Qu'est-ce que vous cherchez ?
Tant pis, je suis lancée. À le protéger, uniquement à le protéger. Ce sera son anniversaire dans 2 jours, le 28 février.
Merci, je suis au courant. Je vous assure, il aura des cadeaux, un gâteau, vous pourrez le noter dans votre rapport pour les services sociaux.
Tant pis, je plonge. J'avais un fils, il s'appelait Esteban, il ressemblait beaucoup à Tom. Il aurait 20 ans aujourd'hui.
Amandine pointe vers moi un doigt couvert de suie.
Pourquoi dites-vous il s'appelait ?
Tant pis si je me noie. Il a disparu, le jour de ses 10 ans, je ne voudrais pas qu'il arrive la même chose à Tom.
Une colère froide, brutale, déforme le visage d'Amandine.
Qu'il arrive la même chose à Tom ? Je pourrais le prendre comme une menace, docteur. Sortez ! Sortez de chez moi, sortez de ma vie et de celle de mon fils !
Elle me désigne la porte du regard.
Adieu, docteur, pas au revoir.
La main qu'elle me tend est entièrement noire.